présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'Accident. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de l'émission, Bruno Goutfard. Enregistrement, CVRP. François cherche à se dérober à mes appels, que sont devenus nos dimanches, nos soirées. J'ai beau essayer de l'interroger, de lui demander ce qui se passe, il ne répond pas. Je souffre beaucoup de ce silence, et je l'aime toujours. Quelquefois, je me regarde dans la glace et je me dis, c'est normal, je suis vieux et lui est jeune. Mais la plupart du temps, j'ai envie de l'étrangler, de lui hurler à la tête. L'amour, qu'en fais-tu? Il n'y a pas que le sexe, la jeunesse. Toi aussi, tu prendras de l'âge. Mais il me regarde avec ses grands yeux, son visage si lisse. Comment peut-on penser qu'il deviendra vieux un jour? Voilà 4 semaines que je ne l'ai pas vu. J'ai décidé de savoir ce qu'il fait. Après la fermeture de mon magasin, j'ai posté ma voiture devant le MB rue Saint-Polycarpe. Je sais et j'ai honte que je ne devrais pas faire cela. Mais qui puis-je? Je l'aime encore. Je passe mes soirées à regarder autour de moi pour voir toutes les affaires qu'il a laissées chez moi. J'ai l'impression de visiter une maison qui n'est pas la mienne. Tout me rattache à lui. Un gant dans la salle de bain, un livre, un paquet de cigarettes. je passe à l'assemblement ces disques. Il a de drôles de goût pour un jeune. Il n'y a que de la musique légère viennoise. J'écoute assis en face de la cheminée, durant des heures, jeune Perkin chantait quoi?
Quoi? De notre amour fou ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Tu me dis que tu ne veux pas la corde pour te pendre, star, laisser ou apprendre.
Je ne sais pourquoi, mais cette chanson me fait pleurer. C'est bête, mais c'est comme ça. Oh, François, pourquoi me laisses-tu tomber? Si tu savais comme je t'aime. Je suis prêt à toutes les folies pour te garder, même celle de te tuer, comme j'ai tué l'autre. L'autre? Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai jamais tué personne, moi. Voilà 3 jours que je surveille le MB et toujours pas de François. J'ai reçu une lettre d'Isabelle. Elle me demande ce que je lui veux exactement. Je lui ai dit que j'avais vu sa photo dans un magazine et qu'elle me rappelait quelqu'un. Je ne sais pourquoi, mais de temps en temps, je vais avant de rentrer chez moi et je fais ça instinctivement, je vais vers sa maison. Les volets sont toujours fermés, elle semble inhabitée. Un soir, j'ai eu envie d'entrer comme la première fois. Le portail était fermé, mais quelque chose m'a poussé à longer le mur pour pouvoir trouver un moyen d'entrer. J'ai longé le mur et j'ai trouvé une petite porte, mais elle était fermée. Alors, je ne sais pourquoi, j'ai eu une crise de rage. Je me mis à hurler des choses incompréhensibles, telles que « C'est comme la dernière fois. Si elle avait ouvert, je ne l'aurais pas tué. » Et je repris mon sang-froid et me mis à courir jusqu'à la voiture. Tu deviens fou, mon pauvre ami. Pourquoi dis-tu que tu avais tué quelqu'un? Et qui aurais-tu tué? Et pourquoi? Mais Charles, voyons. Parce que Charles voulait vivre avec cette fille. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est ridicule. Puisque c'est moi, Charles. Je remis la voiture en route. Je ne savais trop quoi penser de ces divagations. Enfin, je vois François sortir du MB. Il est avec le jeune qui est le cousin d'Isabelle. Tant pis, je les suis. Il se dirige à pied rue Bouteille. J'ai beaucoup de peine à les suivre, car la rue n'est pas large et les voitures sont stationnées des deux côtés. C'est bien ce que je pensais. Il va chez le jeune. Je ne souffre pas pour le moment. Je constate, c'est tout. J'ai attendu des heures dans ma voiture sans bouger, triste et malheureux, comme lorsque l'on sait que la personne que vous aimez vous trompe. Enfin, au petit matin, il est sorti, mais pas seul. Il y avait avec lui Isabelle. Ils ont marché un moment ensemble, puis elle est montée dans sa voiture. Elle a ouvert la fenêtre. Il s'est penché et l'a embrassée sur les lèvres. Ensuite, elle est partie. Je n'y comprends rien. Que fait-il avec cette fille ? Il était avec ce garçon. Je passe une nuit blanche à tourner et à retourner mes pensées. Que fait François avec cette fille ? Pourquoi suis-je attiré par elle, moi aussi ? Qui est-elle ? Le lendemain, je décide de frapper un grand coup. Je veux savoir le plus de choses possibles sur cette fille. Je me mets en rapport avec un détective privé, celui qui est près de la rue Bouteille. Voilà, c'est fait. Je lui ai dit que je voulais le plus de renseignements possibles sur Isabelle Guépierre et sa famille. J'ai un peu honte d'avoir fait cela, mais je veux savoir pourquoi je suis attiré malgré moi vers cette fille. Et peut-être aurais-je des renseignements aussi sur les relations que François a avec elle. Je me sens soulagé. J'ai l'impression que bientôt j'aurai des réponses à tous ces mystères. Pourtant, une nuit, il s'est passé une chose étrange. Je m'étais endormi, comme à l'accoutumée, et, au bout d'un moment, je fis des rêves horribles. J'étais en voiture, et la voiture prenait feu. Je ne pouvais pas sortir de la voiture. J'étais coincé. J'allais brûler avec elle. J'avais beau chercher à faire quelque chose, un geste, mais je ne pouvais pas. J'étais comme paralysé. Après ce cauchemar, je me levais. J'avais la tête vide. Mes gestes étaient automatiques. Je m'habillais. Sorti. Et pris ma voiture. Je conduisais sans savoir où j'allais, ou plutôt comme une personne qui sait trop bien où il va et ne se pose pas la question de savoir où il va. J'allais dans le village d'Isabelle. mais au lieu de prendre la direction de la maison, je pris une autre route. Elle allait me mener où? Je ne me posais pas spécialement la question. J'agissais comme un automate. J'arrêtais ma voiture devant l'entrée du cimetière. Je sortis de voiture. Le portail était fermé, mais le mur n'était pas très haut. Je pus l'escalader. Le cimetière était en dehors du village. Je pouvais être vu. Je me dirigeais, comme poussé par une force étrangère à moi, vers une tombe. Elle n'avait rien de spécial, toute simple, quelques fleurs flanées dans un vase. Mais je vis le nom. André et Pierre, le frère d'Isabelle. Comment suis-je venu près de cette tombe? Qui m'a attiré vers cette tombe? Sur le coup, je ne me posais aucune question. Je restais un moment hébété, puis je m'enfuis en courant. Le lendemain matin, en me réveillant, je pensais avoir rêvé cette échappée nocturne, mais lorsque je vis mes chaussures pleines de terre, je compris que je n'avais pas rêvé. Durant toute la journée, je tâche de trouver une explication à tout cela, mais j'ai l'impression de devenir fou. François me téléphone. Il veut me voir, c'est urgent. Je lui dis de venir ce soir. Que veut-il me dire encore, celui-là? J'ai suffisamment d'énigmes comme ça. Il va encore me mentir, me demander un service. Toujours pareil, ces jeunes. Ils vont de l'un à l'autre et veulent qu'on les aide et aime pour ce qu'ils sont. C'est lui. Mon irritation s'est évanouie. Je le fais rentrer, le prends dans mes bras. Dieu qu'il est beau. Je suis prêt à tout lui pardonner. Je le fais entrer dans le salon. Il a l'air inquiet, gêné. Que veut-il me dire? Je lui sers à boire. Il s'assoit à terre près de la cheminée, comme c'est son habitude. Je m'assois à terre près de lui. « Allons, François, cela fait longtemps que je ne t'ai vu. » Il pose son verre et ne dit rien. « Que veux-tu me dire ?» De sa voix hésitante, il commence à bredouiller quelques mots incompréhensibles. Mais j'arrive à peine à comprendre qu'il veut m'informer qu'il a décidé d'arrêter nos relations et qu'il allait vivre avec une fille. Je n'en crois pas mes oreilles. François me quittait. Nous ne verrons plus. C'est fini. Il me prend la main et me dit « Ne fais pas cette tête-là. Je t'aimerai toujours, tu sais. Mais je ne pouvais pas vivre indéfiniment avec toi. » Et dire que j'ai tout sacrifié pour lui. Femme, enfant, renommée. Il me dit « Je ne suis pas vraiment homosexuel, je faisais l'amour avec toi, c'était simplement pour te faire plaisir. » Ils disent tous cela, ils sont jamais vraiment homosexuels. Alors, pourquoi vont-ils avec nous? Pour le fric? Je ne lui dis rien, je garde mes pensées pour moi. Je lui demande simplement s'il a l'intention de se marier. Il me dit que peut-être. Je lui demande quelle est cette fille. Il me dit que c'est la fille de la photo, qu'ils se sont rencontrés chez un photographe, qu'elle est très bien. Elle a eu beaucoup de malheur, un frère, mort jeune d'un accident de voiture, et ses parents quelques mois après. Elle a dû très jeune faire face seule à la vie. En plus d'elle-même, elle devait s'occuper d'une tante pocharde et d'un neveu. Il me dit après un silence, « Ne sois pas triste, tu resteras toujours mon ami. Je viendrai te voir de temps en temps en ami. » En ami, pauvre con, après t'avoir eu, touché ton corps, aimé comme un fou, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton amitié? Je ne dis toujours rien, je garde mes pensées pour moi, mais déjà germe en moi un besoin de vengeance et de mourir. » Enfin, Isabelle et moi sommes réunis dans son salon. Je suis venu la voir, mais j'ai nullement envie de parler. Je suis assis dans un fauteuil, elle est debout, majestueuse dans sa robe rouge. Elle me tend un verre de Bordeaux. Elle me demande pourquoi je désirais la voir. Je lui dis qu'elle me rappelait quelqu'un, mais que je n'arrivais pas à savoir qui. Elle me dit qu'elle croyait que c'était à cause de François. François lui avait tout dit. Elle n'était pas jalouse de ses amitiés particulières entre hommes, mais elle trouvait que cela était un peu dépassé pour nos âges. Je n'osais pas la regarder. Mon regard allait d'un objet à l'autre de la pièce. Tout à coup, il se posa sur une photographie. C'était celle que j'avais vue sur sa coiffeuse. Elle s'est aperçue que j'observais la photo. Elle la prend et me dit, « C'est mon frère. Mon jeune frère meurt d'un accident de la route. » Je lui dis que cette photo me trouble profondément. Je ne sais pourquoi. Je me sens attiré par ce visage. Elle ne dit rien et repose la photo. Au bout d'un moment de silence, François et moi, nous avons décidé de nous marier dans 2 mois. Dans 2 mois, François sera marié avec elle. Et moi dans tout cela, que vais-je devenir? Nous étions si bien, François et moi. Pourquoi est-ce que cette fille s'est mise entre nous? Je la déteste. Jamais ne rendra François heureux. Jamais, comme je l'ai rendu heureux. Pourquoi François me quitte-t-il pour cette fille? Je suis sûr qu'il est incapable de faire l'amour avec une fille. Je suis sûr que pendant que nous sommes ici, elle et moi, il est allé draguer au NB. C'est bien fait pour elle. C'est elle qui a dû lui courir après. Si elle déparaissait, il ne s'en inquiéterait même pas. Je regarde ma montre, m'excuse, me lève. Je dois partir. Je lui dis au revoir et je pars. Elle me dit sur le palier, « Restons amis, n'est-ce pas ?» Je me retourne et ne lui dis rien. Il faut que je réapprenne à vivre seul, c'est-à-dire sans personne à qui penser. Mon Dieu, que cela fait mal. François, tu es partout dans le moindre objet. François, François, j'aimerais te revoir, te convaincre de rester avec moi. Mais pour le moment, c'est l'entracte. Tu es en voyage à Amsterdam. Je ne pense plus à Isabelle comme une énigme, mais comme une chose à abattre. Il faut qu'elle disparaisse avant le retour de François. Mais comment? Il est facile de rentrer chez elle, sa maison est déserte. Non, Non, c'est impossible. Je ne suis pas un assassin. Les semaines passent. François risque de bientôt rentrer. Si je dois agir, il faut que je le fasse maintenant. Après mon travail, je suis sur la route qui mène chez elle. J'y serai vers les 23 heures. La clé est bien sous le pot de fleurs. Elle est chez elle, sa voiture est devant le perron. Ma main tremble un peu. J'hésite. Tant pis. La serrure ne fait presque pas de bruit. La porte non plus. Tout est noir. Ma lampe de poche. Ah, voilà. Sa chambre. Où se trouve-t-elle, voyons? Je l'avais vue la première fois. Ah, oui, en haut, pourvu que les escaliers ne grincent pas. Peut-être n'y est-elle pas. J'ouvre la porte. Je m'approche du lit. Je me penche. Mon Dieu, que vais-je faire? Un oreiller. Il y en a un juste à côté d'elle. Ouf, j'ai réussi à le prendre. Elle a l'air bien endormie. Maintenant, il faut que je fasse vite. Lui plaquer l'oreiller sur le visage. Et s'asseoir dessus, mais en paralysant les pieds, ses bras, pour éviter qu'elle ne se débatte. Est-ce que je vais y arriver à faire? Oui, à faire tout ça, c'est facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Cela fait deux fois que je m'approche d'elle avec l'oreiller, et non, je ne fais rien. Je suis tellement ému que je transpire. Allez. Un peu de courage, c'est pour garder François. Allez. Je m'élance d'un bond, et juste au moment où j'y arrivais à plaquer l'oreiller, je vois le visage de Isabel. Je me mets à crier. Ne fais pas ça, c'est ta sœur. La lumière s'éclaire. Isabel hurle. Je me retourne derrière moi, se trouve le détective privé que j'avais chargé de faire une enquête sur Isabelle. Je ne sais plus où j'en suis. Je me retrouve dans une chambre d'hôpital. Je ne peux pas bouger. Tous mes membres sont engourdis. Par quoi? Rien ne les retient. Qu'est-ce que je fais ici? Qui m'a amené? Je ne comprends rien. Je ne vois qu'une seule chose. C'est que j'ai failli tuer ma sœur. Pourquoi dis-je cela? Je n'ai pas de sœur. Je me rendors. Une voiture. Toujours une voiture qui prend feu. Moi, lui, nous, elle, je tombe. Je me réveille, je cours, je la tuerai, ou plutôt c'est lui que je tuerai. L'on me secoue, je me réveille, assis sur une chaise, près de lit, un homme en blouse blanche. Il me regarde et me demande comment je vais. Je ne peux lui répondre. Il me dit « Reposez-vous, vous êtes à la clinique Sainte-Marguerite depuis une dizaine de jours. Cure de sommeil, je me rendors. » Puis je me réveille. Une infirmière près de moi me demande si je vais bien. Je lui fais signe de la tête que oui. J'ai la langue porteuse et me sens faible. Elle me demande si je veux un jus d'orange. Ma cure de sommeil est finie. Je me sens là, j'ai maigri, la tête vide. Je recommence à m'alimenter petit à petit. Je n'ai guère d'appétit. De temps en temps dans la journée, lorsque le soleil vient baigner mes draps, j'ai comme une sorte d'angoisse, mais je ne sais pourquoi. Je sais que quelque chose ne va pas. Je n'arrive pas à savoir quoi. En fin de journée, le médecin vient me voir. Il s'assoit près de mon lit. Il me demande ce que je ressens, à quoi je pense. Je lui parle de mes angoisses. Puis, au bout d'un moment, il me dit de me reposer et il sort. Voici 2 jours que je peux sortir de ma chambre et marcher un peu dans le parc. L'air me fait du bien. Lorsque je croise quelques malades, je les évite. Je veux rester seul dans mon silence. Cela fait du bien de n'avoir plus rien dans la tête. Je me sentirais tellement bien s'il n'y avait pas de temps en temps cette angoisse. Les infirmières sont douces pour moi et j'aime être servi. Le médecin vient tous les soirs me poser des questions. Il me demande de parler de moi. Je ne sais que dire. J'ai l'impression de n'avoir aucune pensée, aucun passé. Alors, parlez-moi de vos rêves. Je lui dis qu'il y a un rêve qui me harcèle. Je suis au volant d'une voiture et je suis le passager en même temps. Et la voiture prend feu. À quoi vous fait penser ce rêve? Avez-vous eu un accident de voiture? Non. Pourtant, votre tante m'a dit que vous aviez eu un très grave accident. On a même été obligé de vous faire une chirurgie esthétique. L'accident? Moi? Oui. Oui, bien sûr. Je me souviens. Vous aviez perdu la mémoire? Mais elle vous revient? Je me mis à trembler. Je voyais toute la scène. Oui, moi. Je suis mort. Voilà 2 jours que le médecin n'est pas venu. Je n'ai plus le droit de sortir de ma chambre. L'on me donne des calmants toute la journée. Et cela m'énerve. Je ne peux pas fixer mes pensées. Je n'ai qu'une seule chose dans ma tête. Je suis mort. Je suis mort. Je veux avoir les idées claires, réfléchir, savoir qui je suis. Je ne suis pas Charles Andrieux. Je ne suis pas Charles Andrieux. Alors qui suis-je? Que faisais-je dans cette voiture? Qui était avec moi? Qu'est-il devenu? La voiture. Qui avait-il avant l'accident? Où allais-je? La voiture prend feu, pourquoi? Pourquoi? Je dois m'en souvenir. Pourquoi? À force de chercher, oh, j'ai mal à la tête. Un mot? et je saurai tout. Voyons, voiture, feu. À quoi cela me fait-il penser? Quel mot? Je fais le vide dans mon cerveau, je laisse seul travailler le cerveau. Allez, faisons le vide. Tuer, tuer. J'ai voulu tuer qui? Charles, Charles. Pourquoi? Parce qu'il aimait ma sœur. Alors, si Charles n'est pas moi, qui suis-je? Son ami, André Guépierre, le frère d'Isabelle. La nuit est tombée, je suis seul et calme. Je me souviens maintenant. J'aimais Charles Andrieux, que j'avais connu à Paris à la Sorbonne. Nous avions vécu 2 mois dans la même chambre. Nous étions jeunes, c'était merveilleux. Je passais des heures à le regarder dormir. Lui aussi semblait m'aimer. Et, puis, pour les vacances de Pâques, nous décidâmes de rentrer dans nos familles. Cela ne m'attristait pas trop, car nos 2 familles habitaient Lyon. J'ai voulu présenter Charles à ma sœur Isabelle. Elle habitait rue Bouteille pour plus de commodité pour ses études et son indépendance. Chaque fois que j'allais chez elle, même si elle n'y était pas, je savais où trouver sa clé, qui était dans sa boîte aux lettres qu'elle ne fermait jamais. J'entrais dans l'appartement avec Charles. Elle n'y était pas. Je lui fis visiter les pièces et nous attendions qu'elle arrivât. Dès qu'ils se virent, je sentis qu'il se passait quelque chose entre eux. Isabelle tomba amoureuse de lui et lui d'elle. Enfin, je pense. Ils se virent en dehors de moi. Mais par des connaissances, je le sus. Je devins jaloux et anxieux. Je les épiais, mais je le cachais. Cela ne m'empêcha pas de présenter Charles à mes parents. Ils le trouvèrent charmant et dirent que nous avions la même taille. Les jours passaient. Charles et moi, nous nous voyions souvent, mais nous parlions jamais d'Isabelle. Je souhaitais notre départ pour avoir Charles à moi tout seul. Un soir que nous étions tous au salon, Isabelle vint avec Charles. Elle dit à mon père qu'elle aimait Charles et souhaitait l'épouser lorsqu'il aurait fini ses études. Cette nouvelle me bouleversa. Puis je voulais empêcher ce mariage. J'étais jeune et ne me rendais pas compte que le temps aurait peut-être arrangé les choses. Je vivais ma haine comme dans un rêve horrible. Je me mis à haïr ma sœur d'une force que je décidais sa mort. J'avais une excuse malgré tout. J'aimais pour la première fois. Ma sœur était chez nous. Sa voiture était dans le garage. Je ne m'étais sûrement pas rendu compte de ce que j'allais faire. J'ouvris la porte du garage. Ils étaient tous au salon. C'était notre dernière soirée avant notre départ pour Paris. Il y avait même les parents de Charles. J'ouvris le capot de la voiture. Voilà, c'était fait. Je ne pensais plus que c'était ma sœur. C'était qu'une personne à abattre. Après la soirée, nous dîmes tous au revoir. J'étais très calme sur le perron. Je ne sais plus pourquoi ma sœur voulut rester couchée chez mes parents. Charles lui demanda s'il pouvait prendre la voiture. Il la déposerait rue Bouteille. Je ne dis rien. Je laissais faire. Tant pis, à la grâce de Dieu. Tu as mal agi, mon vieux. Tu es puni. Je devais payer mes actes. C'était normal. Charles rentra dans la voiture. Quelle punition! Il me fit signe. Viens, on rentre. J'étais soulagé. Sur la route, je ne disais rien. Je n'entendais rien. Les dés étaient joués. Je regardais Charles. Puis, ce fut l'horreur. Plus rien. Je perdis la mémoire, l'on me prit pour mort et je vécus à sa place. Il ne me reste plus qu'à attendre le matin maintenant. Qui m'a mené ici? Où est François? Isabelle? Que vais-je devenir? Radio Canu vous a présenté dans sa série L'écran radiophonique la deuxième partie d'un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'accident. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.